Je pense qu'il y en avait un vrai sur cette question de, d'ISDS. On avait essayé de scruter un peu les avantages et inconvénients de l'ISDS, de regarder de plus près. Là aussi, c'est un papier que vous pouvez trouver sur le site. C'était jusqu'à aujourd'hui des mécanismes très bancals qui correspondaient à un besoin. Qui correspondait à un besoin réel quand même, de besoin de défendre une entreprise comme un particulier lorsqu'il y a un cas de discrimination. Mais c'était des mécanismes qui étaient encore très esquissés et que là-dessus, on a quand même beaucoup avancé. Je pense que le risque le plus réel, c'est que l'on fasse capoter la négociation pour de bon. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux intéressants et qui sont des enjeux incontournables pour nos économies européennes. Et c'est que l'on enraye cette négociation à un stade trop précoce, là où il s'agit de conduire la négociation, d'exercer une pression sur nos représentants, parlementaires européens, gouvernements nationaux, mais de poursuivre la négociation. Et de la maintenir. Alors, Matthias Fekl a appelé il y a une semaine, a fait une déclaration. Enfin, il est venu la faire à Berlin, là, dans le cadre de notre conférence, mais il l'a réitéré à la radio sur RMC la semaine dernière, estimant que si les négociations, s'il n'y avait pas une relance significative des négociations, au sens où il souhaitait que les négociateurs américains s'engagent véritablement sur l'ouverture des marchés publics, sur le dossier agricole, alors qu'actuellement ce sont des dossiers qui sont complètement verrouillés, qu'à ce moment-là, on pourrait tout aussi bien se retirer de la négociation et, européen, enfin à l'initiative, là c'est une position de la France. C'est une pression qu'il cherche à exercer sur les partenaires américains, c'est un message fort qu'il cherche à présenter et offensif, si je puis dire. Mais se retirer de la négociation en tant que telle, ou vouloir... je pense que cette négociation, elle est porteuse de toute une série d'interrogations et d'enjeux qu'il faut traiter. Voilà, qu'il faut traiter, qu'il faut savoir comment aider nos entreprises à gagner des marchés à l'extérieur, comment... Les enjeux sont là. Si on ne le fait pas avec les Américains, on le fait avec qui? On le fait comment? Les enjeux sont là. Et vouloir refermer le couvercle pour passer à autre chose, voilà, quel est le plan B? Quel est le plan B? Et le plus gros risque, ce serait, à mon avis, à ce stade, d'en rester là. Vous parliez de la pétition qui appelle à interrompre les négociations, qui est une véritable attente, voilà, d'un certain nombre, et revendications d'un certain nombre d'ONG, pas simplement en France, en Allemagne, un peu partout, en Europe, et qui s'organise en conséquence. Mais je pense que on l'a vu dans la manifestation de Berlin, il y avait à la fois encore un appel au non aux OMG, OGM pardon, non aux OGM, alors que ça n'est pas, je dirais qu'il y a des questions, ça y est, qui sont un peu écartées. Il faut classer, il faut aller de l'avant, il faut aller vers les sujets les plus épineux, il faut il y a un enjeu qui concerne l'agriculture, bien évidemment, la façon dont on va maintenir des tarifs, on va maintenir des pics tarifaires pour un certain nombre de produits sensibles. Il y a la question des quotas, il y a des quotas qui vont bouger, c'est l'esprit d'escalier. Mais il y a un enjeu majeur qu'il va falloir analyser de plus près, qui est l'impact, la distribution, l'impact de ce traité sur les différents secteurs. C'est une question très sensible à traiter. On ne veut pas la traiter entre États européens, parce que l'impact va être variable selon les États membres. Il va être variable, évidemment, selon les secteurs économiques. Il va être variable même encore si on prend l'agriculture, selon le type de production ou d'élevage, qu'est-ce qu'on met en place pour compenser, pour préparer cet impact variable. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, en matière de politique commerciale n'a pas du tout été assez poussée jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Absolument. Non, mais quand c'est présenté comme ça, absolument. Est-ce que je ne pense pas que c'est vécu comme étant une offensive américaine sur le marché, une OPA américaine sur le marché européen. Et pour grossir un peu plus et être plus offensif vis-à-vis de la Chine. Non, je pense pas. Je pense pas que autant je pense que on a de sérieux concurrents en face de nous, que le bras de fer est très serré. Autant je pense que les chiffres de la puissance commerciale européenne nous disent quand même quelque chose, que l'on a sérieusement intérêt à avoir une stratégie offensive. Alors le tout c'est de savoir quelles sont les alternatives, et le TTIP ne veut pas dire ne s'en tenir qu'au TTIP. Ça veut dire accélérer sur nos stratégies d'engagement. Quelle est notre stratégie vis-à-vis des pays, vis-à-vis de la Chine, bien sûr, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Mais c'est aussi vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de toute l'Asie du Sud-Est, vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique qu'on néglige, qu'on n'a pas dans notre radar, et oui, qu'on a perdu. Mais il y a beaucoup d'enjeux qui est l'Amérique latine. Tous les liens que l'on a avec l'Amérique latine, ça devrait nous pousser à nous intéresser quand même beaucoup plus sérieusement. Mais c'est donc une stratégie de projection, une stratégie d'avenir. Et moi, c'est mon point de vue personnel, ce que vous me demandiez, beaucoup plus qu'une stratégie de logique de repli et de protection, parce que pour pouvoir protéger il faut pouvoir être offensif aussi, il faut pouvoir être en mesure. Donc si ça ne passe pas par une stratégie de relance économique dont le commerce fait partie, parce qu'on n'est pas dans une logique de consommation maximale dans les 28 sur les décennies qui viennent, je pense que ça passe quand même en partie par cette stratégie du TTIP, mais qui n'est qu'un élément.
Une question